Problème. Okay. Restons de ce côté de la frontière, même si tout est fermé. Je ne croyais pas dans ma vie m'ennuyer des États-Unis autant que ça. Honnêtement, que ce soit pour aller voir du sport, que ce soit uniquement pour mes road trips en moto, pour pouvoir en faire podcast, pour une certaine liberté, pour voir également, puis d'État en État, c'est des mentalités qui sont différentes. En Pennsylvanie, c'est différent d'ailleurs. Dans New Hampshire, les free or die, ils l'appliquent, eux autres. On dirait que, je sais pas, et ça, je m'ennuie de ça. J'espère que ça va réouvrir bientôt. Mais, de toute façon, les États-Unis ont bien d'autres chats à fouetter parce qu'ils ont le choix entre deux très grands vieillards qui doivent... entre les deux, ils ont le choix... pour l'élection du président qui s'en vient. Pour en parler avec nous, elle est chroniqueuse et spécialiste en politique américaine avec nous là, chez Cogeco Média. Voici Valérie Beaudoin. Bon matin, Valérie.
Bonjour.
Comment tu vas?
Je vais bien, mais moi aussi, je m'ennuie des États-Unis. Donc, je suis dans la même catégorie que toi. J'aurais aimé ça y aller, là.
Dans un temps normal, tu y vas combien de fois par année?
J'y vais en plus de des vacances que j'aime ça aller aux États-Unis, là, par moi-même, vraiment sans le côté de travail. Ça, je dois y aller au moins juste vacances deux fois par année. Mais en plus, j'y vais dans tous les événements importants. Quand il y a une élection, quand il y a des élections primaires, quand il y a la sermentation du nouveau président. Donc, quand il y a vraiment des événements, je m'assure toujours d'être là. Et j'avais, là, c'est vraiment plate parce que je devais aller à Milwaukee, au Wisconsin, pour la convention démocrate qui commence la semaine prochaine. Okay. J'avais passé tout le processus avec les services secrets américains qui doivent vérifier si je suis pas un danger. Donc, j'avais mon accréditation média. Mais finalement, la convention va se faire virtuellement. Et de toute façon, là, on le sait, avec les frontières qui sont fermées, avec la COVID aux États-Unis qui est moins contrôlée, je pense pas que j'aurais pu y aller non plus, là, couvrir ça.
Les gars, nous autres, on est 5 boys, là, à chaque année, à cette période-là. Au début de la NFL, on va toujours voir un game de la NFL. Cette année, on allait à Kansas City voir les Chiefs de Kansas City.
Et Laurent Duvernay tardif.
Oui, mais avant ça, on allait au baseball aussi, le jeudi à Kansas City. Okay. Puis le samedi, on allait voir une game de la NCAA, Division 1, là, les équipes favorites. Là, je me souviens pas du nom du collège, de l'université, mais mon chum Marco Prévost, il vivait là-bas aux États-Unis. Puis c'est lui qui avait préparé notre périple. C'était incroyable, mais tout ça est annulé et c'est bien triste. Mais je sais pas, Valérie, pour toi, mais tu sais, là, je le dis, moi j'aime ça là, aux États-Unis, puis mais des fois j'ose pas trop le dire. Je suis un peu gêné dans le sens que ça fait un peu gros BS Dollar Church. Tu sais, genre je sais pas, c'est des fois c'est un peu gênant de dire qu'on aime ça. Moi j'aime ça, aller à New York, je trippe sur cette ville-là. C'est un peu gênant. Toi, tu vis pas ça de même?
Non, pas du tout. Au contraire, je trouve que les États-Unis, c'est tellement riche parce que t'as le centre des États-Unis qui est une chose. T'as l'Ouest, t'as l'Est, on dirait qu'il y a plein de pays dans un. Fait que non, je pense qu'au contraire, c'est la culture aux États-Unis, c'est autre chose. C'est intéressant aussi d'aller voir. C'est nos voisins. Ça fait du bien aussi de les connaître, hein, parce que on a un voisin et c'est les États-Unis.
C'est ça. Puis il y a une grande distinction. Puis tu l'as dit, moi, je suis jamais allé en Californie. Puis je suis toujours dans l'Est parce que je voyage par la route, là. Et il paraît, puis t'es bien placé pour me le dire, la journée où je vais me pointer en Californie, je vais faire un méchant saut par rapport à la mentalité de la côte Est. Hein?
Ah, la Californie, c'est vraiment différent. Tous les États de Californie, l'État de Washington, l'Oregon, c'est beaucoup plus à gauche. C'est vraiment différent. La mentalité, puis c'est certain aussi, c'est pas les mêmes plages, c'est pas le même paysage. Donc vraiment, l'Ouest des États-Unis, on est ailleurs. Mais il y a vraiment chaque côté des États-Unis, je pense qu'il y a sa richesse, puis qu'il y a le côté intéressant. Mais c'est certain que si on va se promener à Los Angeles et on va se promener... Écoute, sur la côte, je sais pas, ou même, tu sais, en Virginie ou autre, on est vraiment dans deux mondes à part. Là, même si les deux sont américains, ils ont pas nécessairement la même mentalité parce qu'ils ont pas été élevés non plus dans la... C'est tellement grand, les États-Unis, ils ont pas été élevés dans le même... Écoute, avec la même éducation, avec la même... C'est rien de dire qu'un est mieux que l'autre, là. C'est vraiment un fait que c'est assez différent, là.
Au Texas, moi, je suis allé au Texas aussi pendant une semaine de temps, puis c'est un autre monde. Tu dis, voyons, je suis débarqué où? Je me croyais dans le retour retour dans le futur. Non, mais
c'est plus Far West que...
Ah, oui. Pas de là avoir vraiment tout le monde sur la rue avec Austin. Là. Ils ont pas tout un gun sur la rue. Il y a une petite rue avec plein de restaurants et de bars. Puis ils ont pas tout un gun sur eux autres. Mais dans tous les commerces, c'est écrit « Rentrez pas vos guns ».
Oui, moi aussi, je suis allée à Austin. Puis j'ai eu un petit choc quand je suis allée dans un café. Puis il y avait, écoute, toute la... Sûrement que t'as vu la même chose que moi. Là, une espèce de grosse pancarte à l'entrée avec la façon que tu peux porter ton arme ou comment est-ce qu'elle doit être... Je disais, oh, OK, on est ailleurs. Hein, je suis loin du Québec.
C'est vraiment, vraiment autre chose. Je disais en introduction, Valérie, que les Américains ont le choix entre deux vieillards. Je suis pas méchant pour les personnes âgées, mais je trouve ça aberrant, puis un pas de recul, honnêtement. Puis c'est pas des crétins, là. Sauf que, comment peux-tu avoir une vision d'avenir pour des citoyens, pour une population aussi grande que celle des États-Unis, que quand t'as 78 ou 77 ans, je sais pas. Je me semble que c'est passé date.
Et moi, ce que je trouve particulier avec l'orange cette année, c'est, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais dans les deux camps, on traite l'autre de dément ou qu'il y a un problème de vieillesse. Et écoutez, on n'a jamais vu ça, là. Les deux utilisent le même argument pour l'autre camp. Alors, on observe comment Donald Trump va marcher, va prendre son verre d'eau, on va le critiquer là-dessus. On observe comment Joe Biden parle, s'il s'enferge un peu dans ses mots, si je peux m'exprimer ainsi. On va dire, bon, c'est, vous voyez, il est trop vieux, il est dément. Alors, il fait de la démence, là. Alors, écoutez, c'est assez particulier. On est dans une époque vraiment différente de ce qu'on voit d'habitude. Et c'est vrai que d'habitude aussi, chez les démocrates, donc les plus progressistes, on voit plus avec des gens qui sont plus jeunes. Hein? Les républicains sont plus conservateurs. On a vu des présidents un peu plus vieux. Mais Barack Obama était pas vieux quand il était là. John F. Kennedy était loin d'être vieux non plus. Alors, il y en a vraiment des cas chez les démocrates qui sont plus jeunes. Mais c'est vrai que cette fois-ci, on dirait qu'on a été avec... Écoutez, on veut contrecarrer les plans de Donald Trump. Donc, les démocrate, on va aller un peu avec un homme blanc qui est respecté, qui a de l'expérience, qui va être un attrait pour une certaine frange de la population. Je pense que c'est vraiment ça le calcul qui a été fait.
Bon, puis parce que moi, j'aime ça avoir une vision d'avenir, parce que là, le prochain président va être encore là pour 4 ans. Oui. Le président des États-Unis a énormément de pouvoir. On l'a vu, Trump a fait à sa tête, mais tu sais, on peut pas dire qu'il a rien fait. Il est arrivé là, mais il était boqué comme un vieil âne, puis il a appliqué ce que lui croyait, en quoi lui croyait, puis en quoi il pensait. Et évidemment que ça a tourné certaines situations en ridicule et tout ça, mais au moins, il a dit ce qu'il allait faire, puis il a fait ce qu'il a dit, même si c'était un peu bizarre comme agissement. Mais je trouve qu'actuellement, il n'y en a plus de cette vision d'avenir-là. T'sais, Joe Biden, il va être là 4 ans juste pour dire qu'il va avoir son nom sur la liste des présidents. Je ne l'entends pas avoir de l'espoir ou des visions d'avenir pour les Américains qui passent un bout de tough actuellement.
Lui, c'est vraiment, on dirait, un président, si Joe Biden est élu, un président de transition, hein, entre l'époque Trump et la prochaine époque. Alors, il espère que ça va être une époque démocrate parce que il va avoir 78 ans à la fin du mois de novembre. Hey. Fait que la chance qu'il y ait 2 mandats, donc 8 ans à la présidence, c'est assez mince parce que il peut arriver plein de choses d'ici là. Il peut avoir des problèmes de santé, il peut ne pas être assez en forme, il peut même être décédé. Là, je souhaite pas ça, là, mais quand même, quand on avance en âge, il y a plus de risques que quand on a 30 ans, par exemple. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a choisi Kamala Harris comme potentielle vice-présidente. On pourra en parler d'elle, c'est qui, si vous voulez. Mais elle est plus jeune. Elle représente un peu l'avenir du parti. Alors, c'est quand même un calcul qu'ils ont fait de dire, écoutez, on met l'ancienne garde, on met le gars qui est là depuis 30 quelques années, qui a été sénateur, il a toujours été en politique, et on met à côté quelqu'un de nouveau, de rafraîchissant, qui représente peut-être une frange différente du parti, qui est une femme qui est à moitié indienne, à moitié d'origine jamaïcaine, donc qui représente aussi la diversité du Parti démocrate. Donc, je pense qu'ils ont une vision d'avenir, c'est juste que c'est pas avec Joe Biden, ça va peut-être être avec Kamala Harris et d'autres personnes qui vont être dans l'administration Biden, si et ça s'avère que c'est lui le président.
Ouais. Donc, elle est comme un peu en stage là, d'apprentissage pour éventuellement devenir la candidate à la présidence.
Je dirais même qu'elle est, excusez-moi l'expression, stand-by, hein, parce qu'ils ont choisi quelqu'un que si, justement, Joe Biden a un problème de santé, qu'il arrive quelque chose, qu'elle est prête, qu'elle est présidentielle, ça veut dire qu'elle va être... Les gens vont avoir confiance que si... Écoutez, on parle beaucoup de l'âge, là, mais les États-Unis aussi, les Américains vont pas se poser cette question-là. Si Biden, il arrive quelque chose, un peu la même chose que Trump, Est-ce que la personne va être capable de prendre en charge le pays puis d'être compétente? C'est ça aussi la grande question.
C'est ça. Alors qu'au Canada, il y aurait des élections rapidement. Aux États-Unis, elle tombe... Mettons qu'il arrive des problèmes avec celui qui est élu, là. C'est le vice-président qui devient président.
Oui.
Pour finir le mandat au complet, il n'y aura pas des élections précipitées, hein?
Exactement. Ah ouais, alors, ils vont terminer le mandat. Puis souvent, on l'a vu dans l'histoire, là, on l'a vu quand John F. Kennedy était assassiné. Son vice-président, c'est lui qui a terminé le mandat et qui a avancé les dossiers
C'est
Lyndon Johnson.
Ah
oui,
puis il a été réélu après, lui.
Oui, exactement.
Il n'était pas favori. J'ai vu un film sur la vie de M. Johnson. C'était fascinant. Il était aux femmes un peu, lui, par exemple, là, puis ça avait failli causer des problèmes.
Je pense qu'il y en a beaucoup, hein, qu'il était pas mal dans les notre liste de présidents.
J'ai voulu me présenter, mais en tout cas, il n'y avait pas le temps, mais... c'est ça, là, c'est pour ça qu'il faut absolument... Quel âge, tu dis, cette dame-là, Mme Harris, est plus jeune, elle a quel âge?
Je pense qu'elle a 55 ans, elle est dans la cinquantaine, là, mais si mon souvenir est bon, elle a 55 ans, donc elle a quand même, elle est vraiment dans l'âge, je vous dirais, typique de quelqu'un qui va être un candidat à la présidence. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'expérience de vie, parce que aux États-Unis, c'est 35 ans, l'âge minimum, pour être autant vice-président que président.
OK. Il y a bien du monde qui pense que, bon, Trump, il fait des tweets qui sont exagérés, bien souvent, puis même mensonger dans d'autres cas. Mais il faut pas oublier une chose, puis j'en suis l'exemple. Il fait des tweets, puis des fois, c'est la seule chose... Fait que moi, la seule chose que je sais de Mme Harris, c'est un tweet que j'ai lu de Trump qui dit que quand on parle de gauche, elle, c'est l'extrême-gauche comme on ne l'a jamais vu. Elle est encore plus à gauche que Biden. D'ailleurs, il a cité des échanges que les deux ont eu, Biden et elle, un contre l'autre, quand il était à la course pour le parti. Puis là, j'ai dans ma tête, c'est une... extrémiste de la gauche dangereuse, un genre de Gabrielle Nadeau-Dubois féminin extrémiste. Est-ce que c'est un peu ça ou...
Non, pas du tout, parce qu'au contraire, oui, elle a des politiques à gauche progressistes à la Elizabeth Warren ou Bernie Sanders. Là, on s'en est déjà parlé de ces candidats-là qui étaient plus à gauche. Mais oui, elle s'est fait reprocher pendant la campagne parce qu'elle voulait être la candidate à la présidence. Hein. Elle a affronté Joe Biden, tu viens de le dire. Et elle avait un pied, on dirait, à gauche. Puis un pied au centre. On savait pas trop était où, parce qu'il y a des politiques qui étaient progressistes, il y en a d'autres qui étaient centristes, ça veut dire modérés, qui ressemblaient un peu plus à ce que Joe Biden voulait ou d'autres candidats. Donc les gens, il y avait de la difficulté à se reconnaître en elle, parce qu'ils disaient, ben moi, si je suis progressiste, est-ce que je suis vers elle ou je suis vers Bernie Sanders, que lui, il s'affirme? Si je suis au centre, pourquoi est-ce que je rêve avec Kamala Harris quand elle a un pied à gauche? Il y avait vraiment, on dirait qu'elle essayait de plaire à tout le monde, puis ça le déplut pour une candidate à la présidence, mais pour les vice-présidents, ils se disent, ben écoutez, comme elle danse un peu des deux côtés, on va rejoindre des progressistes, des gens de la gauche, puis des gens du milieu qui vont peut-être se reconnaître en elle. Mais c'est certain qu'elle est un peu plus à gauche que Joe Biden. Mais même Joe Biden est plus à gauche que Barack Obama dans ses promesses, du moins, que Barack Obama l'était aussi, parce que il doit plaire à une partie de l'électorat démocrate qui demande des réformes, comme au niveau de du système de santé ou de plein de choses aux États-Unis.
L'élection est à peu près dans 3 mois. C'est drôle, j'ai l'impression que ça ne revirera pas de bord. Je suis pas un grand prophète, là, mais j'ai l'impression que là, avec le COVID et avec toutes les erreurs qu'il a fait, Trump aurait pu être réélu, même que j'étais pas mal convaincu à un moment donné que ça allait arriver. Et là, j'ai l'impression qu'il s'est tellement tiré dans le pied qu'il est obligé de prendre une chaise roulante. J'ai l'impression que c'est fini pour lui.
Je suis d'accord avec toi, mais j'ai toujours un mais. Parce que en 2016, là, je pense qu'on a tous le traumatisme que la plupart, là, la grande majorité des gens qui regardaient la politique américaine, autant ici qu'ailleurs, se disaient, écoutez, Hillary Clinton va l'avoir, Donald Trump, il n'y a pas de chance. Et on a peur un peu de faire le même calcul en se disant, on voit dans les sondages que Joe Biden, ça va bien. Et oui, c'est vrai que son avance est plus grande que Trump avait avec Hillary Clinton. Mais il y a plein de choses qui peuvent se passer en 3 mois. On le sait, Joe Biden, il fait des gaffes. Il dit pas souvent la bonne chose quand il va être en débat. Est-ce que Donald Trump, qui est très, très fort en débat, va avoir l'air beaucoup plus solide que Joe Biden? Est-ce que le fait que Kamala Harris soit là, ça va être assez pour lui donner encore plus de crédibilité? Il y a vraiment plein de questions comme ça. Et moi, j'ai hâte de voir Kamala Harris et Mike Pence, les deux potentiels vice-présidents, en débat au mois d'octobre. Ça va être vraiment bon aussi.
Ça va être intéressant, mais Pence, des fois, il faudrait que quelqu'un lui dise d'avance. On n'est pas sûr qu'il est tout le temps réveillé, là.
C'est ça. Kamala va le réveiller, je crois.
Ils ont dit qu'il est empaillé des bouts, tu sais.
Ça risque de parler plus de politique là, que des chicanes personnelles.
Ouais, c'est ça. Puis elle est très bonne pour débattre. C'est une ancienne procureure générale de la Californie. Donc, c'est vraiment une avocate dans l'âme qui est capable de garder vraiment là, son point, de le présenter. Puis elle a pas peur d'un Mike Pence ou d'un Donald Trump. Au contraire, je vous dirais qu'en ce moment, Donald Trump semble être un peu plus paniqué par Kamala Harris que le contraire.
Je comprends. Donc, ça veut veut dire depuis cette annonce-là, c'est que du positif pour ce parti-là actuellement.
Oui, en grande majorité, c'est certain qu'il y a des gens qui sont encore pas contents, qui se disent pas assez ci, pas assez ça, ou elle a un passé qui est assez dur avec justement les Afro-Américains qui ont été procureurs, qui sont surreprésentés dans les prisons en Californie, donc on va y reprocher ça. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est la candidature qui allait satisfaire le plus grand nombre de gens aux États-Unis. Reste à voir là si il y a des choses qui vont sortir sur elle ou sur autre chose là, pendant la campagne. Vous le savez, il y a des scandales. Là. Il y en avait eu jusque quoi, deux semaines, une semaine avant l'élection, le scandale des courriels d'Hillary Clinton, c'était au mois d'octobre quand l'élection est en novembre.
Alors, il faut, et là-dessus, moi, je profite de ça pour enseigner des fois à mes fils, leur dire que, tu sais, nos grands-parents, ils étaient bleus ou ils étaient rouges, puis ils avaient beau présenter un âne, ils auraient voté rouge, eux autres, c'était rouge. Il faut plus que ça existe. Puis aux États-Unis, c'est encore très, très fort. Ben, la religion est aussi encore forte. Et si t'es un démocrate, t'as des stickers après ton char, puis après ta main. Oui, c'est ça. Mais même si le candidat te rejoint pas pantoute, t'es un démocrate, tu vas voter démocrate.
Parce que si tu changes de parti, c'est comme si tu reniais ta famille.
Je suis certain qu'il y a des gens qui parlent pas à leur famille à cause de leur tendance politique. Alors, c'est un peu décevant de voir ça. Alors que c'est bien plus le fun de regarder, bon, on me présente ça. T'sais, c'est un peu comme un menu au restaurant. On me présente ça, puis je vais choisir ce que je veux. Mais c'est pour ça qu'il faut pas avoir préétabli d'avance le côté duquel on est. Alors, j'ai bien hâte de voir cette élection qui est... Quelle date déjà en novembre?
C'est le 3 novembre.
3 novembre, alors ça va être fort intéressant. Et on va se reparler, bien sûr,
Valérie. Je l'espère.
Fini tes vacances, là?
Ah, j'ai pas pris de vacances, moi, de l'été, alors...
Ah non?
Non, ça va être après l'élection.
Après l'élection, ça va être là que ça va se passer. Puis espérons que les frontières vont réouvrir.
Oui.
D'ailleurs, là, la date, c'était le 21 août, hein? Pour les frontières?
Oui, je pense que c'était le 21, mais écoute-moi, honnêtement, je pense que ça va être repoussé, c'est pas mal certain, parce que tant que la pandémie est pas contrôlée, ça me surprendrait que Justin Trudeau dise oui à ouvrir les frontières.
Je te laisse aller, Valérie, je sais que les gens de l'Outaouais t'attendent.
Oui.
T'es trop en demande, c'est ça.
Écoute.
Puis eux autres sont organisés, c'est pile à l'heure, alors qu'ici, c'est tout croche, fait que c'est très différent. Merci.
Ça me fait plaisir.
Salut.
De vous parler.
Valérie Beaudoin, notre spécialiste en politique américaine, donc, qui nous a parlé, entre autres, de cette jeune femme, qui a quand même 50 ans passé.
55.
Oui, hein, Stéphane.
De quoi?
C'est pas jeune, ça.
Passé 40, c'est fini.
Oui, c'est ça. Il me semblait aussi qu'il y avait une phrase comme ça là, qu'elle allait être dite.
C'est des niaiseries, là. Appelez pas pour vous plaindre, mesdames, là.
On donne un spectacle de niaiseries.
C'est
ici.
Un spectacle de niaiseries d'un gros macho qui ne l'est pas vraiment. Mais Kamala Harris, elle, donc 55 ans, avocate. C'est drôle, elle me l'a bien vendu, Valérie. C'est pas une graine. Ça doit pas être une graine rendue. Jusqu'à... Mais j'ai l'impression, des fois, que les autres, on n'est pas certains. Hein? Fait que... Ah ouais, on va suivre ça avec intérêt, c'est certain. Ce qui se passe chez nos voisins du Sud.
Tu sais que dans la dernière semaine, il y a deux Kamala qui ont fait la nouvelle. Hein? Elle.
Kamala Roux.
Puis te souviens-tu, je suis sûr que tu sais c'est qui. Je sais que t'as eu la lutte, là. Mais te souviens-tu d'un gros bonhomme, couleur, la peau noire, qui était déguisé en espèce d'indigène qui s'appelait Kamala? Ça te dit rien?
Non, pas du tout.
Ah, je suis sûr, je te montre une image, je suis sûr, tu sais c'est qui.
J'écoute la lutte, sérieusement. J'ai connu, le dernier lutteur, que j'ai connu, il était recru, il s'appelait Abdullah the Butcher.
Ah, oui, avec Eddie Richmond et son bâton électrique.
Oui, oui. J'ai rencontré Eddie Richmond. Puis The Animal George Steele.
Ouais. Il mangeait le coin du ring.
Là, on parle, hein?
Il mangeait le coin du ring.
Oui, lui, il mangeait le coussin avec la mousse.
Eh oui.
Hey, lui, il était vraiment, dans vraie vie, pas fini.
Un bon timbré.
Ah, oui, c'est.
Bam Bam Bigelow, ça, c'est pas un lutteur.
C'est très bon,
oui,
ça. Excellente
très,
culture.
Très bon, d'ailleurs. Ouais. C'en est un autre. Mais c'est de l'ancienne garde de la lutte. Non, je suis plus trop de temps dans la lutte.
John Cena était bien connu aussi.
Oui. Ça, mais tu veux plus mes enfants, ça, qui ont suivi ça.
Dans
mais...
les récentes, tu sais, à la John Cena puis The Rock, c'est sûr que c'est plus le cinéma, là, aussi, qui les a fait connaître de façon plus large. Ils ont fait une belle renommée à la lutte, puis après ça, c'est. Mais Kamala est mort cette semaine.
OK.
Oui, c'est ça qui est arrivé.
Eh ben, t'es triste.
Mais tu te souviens, Eric Richmond, qu'est-ce qu'il disait? Ben, puis là, il pourrait pas dire ça aujourd'hui, là. Mais il dit, mon gros noir, puis moi, c'est 50-50. 50 cents pour lui, 50 piastres pour moi.
Ah, il disait ça pour vrai? Hey, lui, c'était tout qu'un personnage.
Oui.
Moi, il était ami personnel du père à mon chum Nicolas Cause. Puis il venait à Pintendre, il venait chez Cause à Pintendre. Puis il était venu au terrain de base, je me souviens pas pourquoi. Puis tu sais, dans la vraie vie, il parlait pas de tu sais, la voix qu'il avait, puis là, c'est comme ça que ça va marcher, c'est à soir.
Qui parlait comme ça?
Fait que
Eddie
Critchman, c'était un gérant, mais c'était le créateur du côté artistique et spectaculaire de la lutte québécoise à l'époque. Puis il savait se faire haïr, fait que c'était ça, le spectacle.
Il faisait partie du show. C'était le gérant, mais il faisait partie du show.
Non, en ce temps, moi, je suis plus soft. Tu sais, je me sers beaucoup d'Instagram pour ma recherche pour l'émission. Oui, mais il y a beaucoup de contenu.
C'est pour ça que tu parles du Sud assez souvent.
Oui, c'est sûr.
C'est chaud.
Quand tu dis que t'es plus soft, c'est quoi? T'es plus pilates que lutte Grand Prix?
Oui, c'est ça. Exactement. Oui. Moi, j'aime beaucoup les photos de paysages. J'ai beaucoup changé. Eh ben ouais, puis il y a beaucoup... Là, j'adore suivre des filles de Québec qui font de la photo de paysage. Là.
Oui, ben oui.
Je reconnais pas toujours la plage.
Mais tu vois beaucoup de montagnes.
Oui, beaucoup de reliefs, tu veux dire.
Au choix du chef.
Hey, mais une belle
fille.
Du beau
sable, hein, pis tout.
Une belle fille. J'ai pogné le début de la télé était ouverte par hasard à Radio-Canada, puis le soir en reprise, c'était l'émission Rupture.
Oui.
Puis il y a la fille Mélissa.
Desormeaux Poulin. Elle est magnifique et compétente.
Elle est très jolie, cette fille-là.
Oui.
C'est une actrice là, qui a failli jouer aux États-Unis.
Ah oui?
Elle a passé des auditions. Je pense qu'elle en a parlé dernièrement. Là, je vais te retrouver ça en parlant. Mais elle a failli, oui.
OK, parce que... Puis Vez m'apprenait tantôt durant la pause parce que je cherchais son nom. Parce que je ne l'ai pas dans mon Instagram, elle. Fait que,
mais elle s'habille.
Oui, mais c'est que j'aime ça du linge, des fois.
Elle donne des idées de cadeaux.
Puis elle est intelligente aussi.
Ah oui?
Puis elle est vraiment bonne comme actrice
sans
règle. Elle
est excellente, puis c'est pas sarcastique.
Mais tu l'écoutes dans quoi, toi, Pierre Blais?
Je l'ai vue dans... Elle joue dans... Colin.
Incendie de Denis à Villeneuve, là. Ouais. On l'a connu beaucoup par ça.
Il y a une série...
La rupture à Radio-Canada, elle est avocate dans ça. J'ai jamais écouté ça. J'ai vu les premières images, moi, cette semaine. Puis là...
T'en es pas revenu, faut croire.
Non, elle est très, très jolie, mais je pensais... Elle n'est pas si jeune que ça. Je pensais que c'était une jeune comédienne.
Elle n'a pas 40 ans ou elle va pas avoir
39,
40 ans?
Elle achève, comme elle on achève, dit, comme
c'est ça,
dirait.
Elle achève, c'est ça,
elle achève.
Elle, parce que Vez, il me disait qu'elle avait joué dans L'Anse et Compte. Fait que, pourtant, L'Anse et Compte, ça fait quand même un maudit bout de ça.
Elle avait joué le rôle d'une femme un peu déraillée qui avait fait quelque chose de croche.
On écrit Marie-Josée Gignac pour L'Anse et Compte.
Ouais, elle avait-tu enlevé quelqu'un ou je sais pas quoi, gardé séquestré ou je me souviens plus c'était quoi l'histoire.
Tu écoutes ça en cassette de temps en temps ou quoi, là?
Non, c'est ma mémoire.
Ah, ouais, OK. Mais t'es un fan de L'Anse et Compte, j'imagine?
Oui, je n'ai pas manqué.
Mais c'est 2012.
Je connais pas les répliques par cœur comme certains. Là.
Ah ouais.
C'est 2012. La série, c'est La Déchirure.
La Déchirure?
Oui, c'est pas dans les trois premières séries des années 80. Là.
Ah, elle a joué aussi dans ces gars-là.
Bon, on me dit aussi Épidémie, Mensonge.
Mensonge, c'est là-dedans que je cherchais. Non, elle est vraiment très, très bonne. Elle fait la sœur d'un enquêteur, puis elle est prostituée, mais elle est la sœur d'un enquêteur de police. Puis elle devient comme enquêteuse à un moment donné par la bande.
Mais si, c'est quelque chose. C'est vraiment jolie aussi.
Elle est très bonne dans son rôle, oui.
C'est ça que je disais. Mm-hmm. Alors, ça mérite un trophée.
Un trophée de quoi?
Ben de comment il appelle ça
talent?
Là, quand oui
pour le talent
ça,
un métro
là,
star
qu'elle joue bien
c'est ça un métro star ou super C star quelque chose. On vient dans un instant, vous êtes dans Dupont le matin.
Une coupe d'annonce puis on revient. Hey, touche pas à ce piton là. Dupont le matin au FM 93. Enfin une émission qui a du contenant.
On dit qu'elle a auditionné pour Game of Thrones.
C'est ça que je cherchais.
C'est vraiment...
Elle voulait faire la prêtresse machiavélique.
OK, la sorcière rouge.
Oui, on la voit toujours nue. T'aurais été content, là?
Tu vois, j'ai essayé de commencer ça, Game of Thrones. Mais j'ai commencé.
Ouais.
Puis Colin, puis mon chum 5 mars, lui, il a trippé sa vie.
Mais il faut que tu regardes quelques épisodes. Après, t'embarques. Mais je suis d'accord avec 5 mars. C'est excellent.
Mais ça peut-tu être un univers dans lequel on n'embarque pas pantoute?
Hey, non, je pense pas. Parce que c'est tellement l'opposé de ce que j'écoute normalement que moi, j'ai embarqué, j'ai trippé, j'avais hâte que ça sorte à chaque année.
Mais moi, là, l'univers des dragons, donjons,
enlève ça de ta tête. C'est vraiment des histoires de famille, de guerre, d'assassinat, de stratégie. Là. Le dragon, enlève ça de ta tête.
Mais OK. Mais là...
On parle pas de Jean-Simon Buis, là.
Non, je le sais. Je l'ai entendu hier. Il parlait de la nouvelle équipe dans la Ligue nationale, puis il trippait parce que c'était un monstre, je sais pas trop quoi, de l'histoire grecque. Oui, c'est ça. On est souvent dans la mythologie grecque. Bon, qu'est-ce que je fais ici, là?
La mythologie.
De Sinisco?
C'est ça.
Sinisco, c'est un dieu grec. Oui, oui. C'est le dieu du nettoyage.
Prendre une note.
Vous saviez pas ça? Sinisco, c'était le dieu du nettoyage.
Bien sûr.
Hey, alors, comment on dit ça, Sinisco, en grec, déjà? Faudrait que je le trouve. Sinisco. C'est un traducteur, c'est ça.
Sinisco.
OK.
C'est du grec, Sinisco.
Hey, vous voulez vous joindre?
Ah. C'est pas moi.
C'est pas toi, c'est,
ouais,
très
c'est parti,
bon.
Ça.
Je sais pas comment. Hein. Je veux juste vous dire que Sinisco, c'est les spécialistes du nettoyage d'après-sinistre. Les grandes compagnies d'assurance vont vous dire, hey, il n'y a pas d'hésitation, c'est Sinisco pour un prix juste, pour l'efficacité du travail, la rapidité et surtout la qualité à laquelle on va vous redonner votre résidence ou vos objets. C'est Sinisco seulement qui livre cette qualité-là. Sinisco est à la recherche de menuisiers charpentiers. Alors, évidemment, c'est les avantages de la CCQ, si le linge est fourni, la formation également, s'il y a de l'adaptation à faire avec les méthodes Sinisco. Donc, de la démolition à la reconstruction, à la finition, Sinisco a besoin de vous, menuisier, charpentier. Sinon, des spécialistes en nettoyage d'après-sinistre, ça aussi, on a des postes d'ouvert. Tout ça est regroupé au même endroit, sinisco.com, dans l'onglet emploi. Vous allez avoir différents formulaires à remplir. C'est simple, c'est facile, c'est efficace. Contactez Sinisco, je vous le dis, vous le regretterez pas. C'est une entreprise familiale, la famille Dufour, les parents, les enfants maintenant qui sont là-dedans. C'est très cool, des gens qui trippent sur ce qu'ils font. Alors, contactez-les, sinisco.com.